Pogastourie, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'histoire et qu'on ne vous a jamais, jamais, jamais raconté. Alors aujourd'hui, on va parler du Front populaire et on va surtout s'intéresser au Front populaire par rapport à l'actualité. On va le mettre en résonance avec la loi El Khomri, tous les dégâts qu'elle est en train et qu'elle va causer si elle est définitivement, voilà, si elle est maintenue. Alors, donc, vous avez compris la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler sur 36, sur le Front populaire et sur la nouvelle vie que 36 a offert à la classe ouvrière. Alors, pour démarrer, un petit rappel, on peut dire que le Front populaire, c'est la référence française absolue pour le monde ouvrier. Pourquoi ? Ben parce que, en fait, ce Front populaire a jeté les bases de ce qu'on appelle le modèle social à la française, dont les libéraux et les capitalistes de tout poil veulent la peau aujourd'hui, hein, qui est un modèle qui, ma foi, n'est pas trop mal. Donc, nous allons voir en quoi le Front populaire, ça a été la conquête d'une dignité face au patronat de droit divin, la conquête d'une dignité, évidemment, pour les prolétaires. Alors, on va faire un petit rappel pour commencer. On va revenir aux origines du Front populaire, parce que je parle de Front populaire, mais certains d'entre vous se disent « Ouh là là, les cours d'histoire sont loin, qu'est-ce que c'était, pourquoi c'est né et comment ça s'est mis en place ?» Donc, je vais répondre d'abord à « Pourquoi la naissance du Front populaire ?» Il y a une logique antifasciste dans ce Front populaire. Il faut savoir que le Front populaire, c'est la réplique à la manifestation du 6 février 1934. De quoi s'agit-il ? Bien, il s'agit de ligues d'extrême droite, de petits partis d'extrême droite, comme la Solidarité française ou les Croix de Feu du colonel de la Roque, qui souhaitent en 1934 renverser le gouvernement, qui dénoncent évidemment la présence des étrangers comme élément de corruption de la classe politique. Donc on est dans un contexte de populisme exacerbé, ça vous rappelle peut-être quelque chose, et d'antiparlementarisme également. Donc ces ligues manifestent violemment, parlent de renverser, devant le Palais Bourbon, parlent de renverser le pouvoir, et donc on a 15 morts et 1500 blessés, bilan des courses. Évidemment, face à cela, les forces de gauche s'organisent, et donc va se constituer une coalition en réplique à cette manifestation, comme je l'ai dit. L'autre élément qui est à l'origine du Front populaire, c'est la volonté de changement de ligne pour les communistes. Alors je vous rappelle que là on parle du PCF, qui suit bien sûr la ligne de la Troisième Internationale et la ligne de Moscou, pardon. Donc l'idée c'est que bien, Staline a compris enfin, il était temps, qu'Hitler est un vrai danger. Et il s'agit d'éviter le renforcement du camp fasciste en Europe. Donc il s'agit d'en passer par une union des forces de gauche. Le PC abandonne donc la ligne classe contre classe et va intégrer la plateforme, la coalition du Front populaire. Alors je rappelle quand même, parce qu'on parle souvent d'une logique antifasciste mais d'une logique réformiste. Alors c'est vrai, le Front populaire, c'est pas la révolution. En tout cas pas la nôtre, pas la révolution, je dirais, par la rue et par l'action. C'est une voie réformiste, mais n'oublions pas quand même qu'à l'époque, la SFIO, c'est-à-dire les socialistes, eh bien, ils étaient clairement et nettement d'obédience marxiste. Hein, donc ils affirmaient le principe de la lutte des classes dans leurs fondamentaux politiques. Donc ça a fait une grande différence avec les socialistes d'aujourd'hui. Alors évidemment, on peut parler de réformisme, mais la SFIO, au regard de ce qu'est aujourd'hui le Parti socialiste, c'est plus que des bolcheviques, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je continue dans le pourquoi du Front populaire, la logique antifasciste, on a compris, à deux aspects. Un autre élément du pourquoi, bien la prémauté du politique par rapport à un programme social qui, ma foi, est somme toute modeste. Alors ça paraît étrange, puisque je vous ai dit que c'était une vie nouvelle pour la classe ouvrière, les mesures prises par ce Front populaire, mais au départ, le programme social est modeste. L'objectif au départ, c'est une primauté au politique. L'objectif numéro un, c'est la dissolution de ces fameuses ligues, qui prolifèrent dans un contexte de scandales politico-financiers. On a déjà, à l'époque, une oligarchie financière qui fait parler d'elle et qui se retrouve éclaboussée par de multiples scandales. Pensons à l'affaire Stavisky, dont j'aurai peut-être l'occasion de vous parler une prochaine fois, mais là, on n'a pas trop le temps. Concentrons-nous sur le Front populaire. Donc vous voyez que la primauté, c'est cette dissolution des ligues, l'objectif numéro un. Il y a aussi, bien sûr, un registre économique et social. c'est évident. Mais les mesures sont modestes. Ce sont des mesures contre le chômage, contre la crise industrielle. Et sur le plan social, on peut parler d'une sorte de New Deal à la française. Donc vous voyez que c'est une politique de relance de la consommation. Je répète, ça n'a rien de révolutionnaire. Les congés payés au départ, et notez-le bien, n'étaient pas dans la feuille de route, dans les mesures proposées. Et la seule nationalisation qui était projetée était celle des industries de guerre. Voilà. Donc ça, c'est notre premier point sur les origines du Front populaire et les logiques qui président à cette mise en place d'une coalition. Alors maintenant, nous en arrivons au deuxième temps. Qu'est-ce que le Front populaire ? Et comment s'est-il manifesté concrètement ? Quelles sont les mesures phares ? Et comment arrive-t-il au pouvoir ? Donc d'abord, l'arrivée au pouvoir. Donc à partir des grands rassemblements et des défilés de la gauche antifasciste, la gauche qui s'est rassemblée, comme je vous l'ai dit, en réponse à la montée de l'extrême droite, à partir de ces grands rassemblements de juillet 1935, va se créer en fait une plateforme, une coalition de trois partis, regroupant les trois principaux partis, alors qui sont bien sûr les socialistes de Léon Blum, la SFIO, les communistes, qui au départ vont soutenir le gouvernement sans y être directement, mais qui feront partie de la coalition bien sûr, et les radicaux. L'extrême centre gauche, les radicaux qui seront ceux par qui le Front populaire va s'effondrer. On en reparlera un peu plus tard. Donc ils arrivent au pouvoir le 3 mai 1936, mais ils ne prennent officiellement le pouvoir que le 5 juin. Deux jours plus tard, le 7 juin 1936, c'est la fameuse signature des accords Matignon, signés donc par le président du Conseil, on ne disait pas Premier ministre à l'époque, Léon Blum. Ces accords sont porteurs d'acquis sociaux sans précédent pour la classe ouvrière. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, une fois qu'on a vu cette arrivée au pouvoir, c'est se demander comment expliquer une telle rapidité. On prend les rênes du pouvoir le 5 et le 7, les accords Matignon sont votés. Qu'est-ce qui justifie une telle urgence ? Et qu'est-ce qui explique qu'on est passé donc d'un gouvernement qui avait des mesures sociales, des propositions sociales faiblardes, à ces accords Matignon qui vont révolutionner, entre guillemets, la vie des ouvriers et leurs conditions de vie. Alors, ce qu'il explique, c'est la pression de la rue. Pression de la rue comme accélérateur de l'histoire. Donc, notons tout d'abord le grand retard français en termes de législation sociale à l'époque, dans les années 30. L'exploitation majeure subie par les travailleurs est aggravée par la crise économique, fameuse crise de 1929 aux États-Unis, crise capitaliste, crise qui frappe bien sûr les classes populaires et la classe ouvrière. Donc avant la formation du nouveau gouvernement en mai, il faut savoir qu'il y a tout un contexte social qui va faire pression sur ce gouvernement. Des grèves éclatent dans les usines d'aviation du Havre, par exemple, puis chez les dockers, et petit à petit le mouvement se répand comme une traînée de poudre. À partir du 2 juin, donc, des secteurs entiers vont entrer en grève, par exemple la chimie, l'alimentation, le pétrole, la métallurgie, les mines, je ne vais pas tout vous citer parce qu'on y passerait la journée. Il faut savoir aussi que des comités de grève occupent les usines et que les ouvriers découvrent en pratique l'auto-organisation. Ils vont donc créer dans l'action un rapport de force favorable. Nous qui sommes des marxistes révolutionnaires, c'est là la démonstration donc que l'action sur le terrain est un formidable accélérateur de l'histoire. Il faut savoir que la philosophe Simone Veil, dont je parlerai en conclusion, en parlant de ces grèves, parlait de grèves joyeuses, des grèves de la joie. Pourquoi ? Des bals, des pièces de théâtre sont organisées, sont données sur les lieux de travail occupés. Par exemple, c'était le cas du groupe Octobre de Jacques Prévert qui a soutenu à sa façon, donc, par l'activité théâtrale, ces grévistes. Donc, un petit chiffre à retenir, 12 000 grèves, dont 9 000 avec occupation et 2 millions de grévistes. Oui, vous entendez bien, c'est ça, créer un rapport de force. Donc, un climat quasi révolutionnaire à ce moment-là, se développe dans l'action, par la remise en cause, une remise en cause qui commence à émerger dans les débats, dans les usines, de la propriété privée des moyens de production. Évidemment, l'aile gauche de la SFIO soutient la grève générale. Et on a un article du Populaire, le journal donc, de la SFIO, en date du 27 mai 1936, qui dit « Tout est possible », signé Marceau Pivert. Donc, quel bilan tirer de ces grèves, eh bien c'est que l'action auto-organisée des ouvriers a permis des acquis sociaux inédits, les acquis sociaux de 1936. Alors, maintenant, voyons justement quel est cet héritage du Front populaire? Quelles sont concrètement les mesures dont ont bénéficié les ouvriers, la classe ouvrière, suite à ces grèves et à ces combats menés d'abord dans la rue, puis ensuite dans un cadre plus institutionnel? Alors, donc l'héritage du Front populaire, c'est d'abord l'héritage des congés payés, des 40 heures. C'est un acquis. Ce sont des acquis arrachés par la lutte sociale. Je rappelle que ça n'était pas prévu dans la feuille de route. C'est le rapport de force qui arrache ces deux mesures, qui ne figuraient pas dans le programme social. Donc, pour les ouvriers et les employés qui partent en vacances, par exemple, Léo Lagrange va créer des billets de transport avec 40% de réduction, qui existent toujours, hein, donc qui sont toujours, qu'il est toujours possible d'utiliser. Donc, vous voyez que concrètement, on a une amélioration inédite de la condition ouvrière. Car même si le programme était un simple New Deal keynésien, il a quand même l'action de la rue a permis la mise en place de ce qu'on appellerait, nous, en langage marxiste, un véritable programme de transition, notamment avec la mise en place du droit syndical, les premières conventions collectives par branche, mais également des augmentations de salaire d'une ampleur quand même assez extraordinaire, eu égard à ce qu'on arrache aujourd'hui quand on arrive à arracher quelque chose. Donc augmentation de salaire entre 7 et 15%, suivant les branches, et 12% en moyenne. Il y a aussi, comme avancée sociale très importante, la retraite des mineurs, les lois sur les allocations au chômage, une politique de nationalisation donc de l'aéronautique, de l'armement, des chemins de fer, c'est aussi la création de la SNCF en 1937, et c'est aussi la création de l'Office national du blé pour éviter la spéculation. Mais on oublie souvent un aspect essentiel. L'aspect essentiel, ce sont aussi les progrès de l'éducation. Il n'y a pas seulement que le volet strictement social. Alors, qu'est-ce qu'on a comme progrès? Quel est l'héritage du Front populaire? C'est la scolarité obligatoire qui est portée à 14 ans. Alors aujourd'hui, elle est portée à 16, mais déjà à l'époque, on passait à 14. La possibilité de créer des passerelles entre le primaire et les lycées. Des tarifs réduits dans les musées pour les classes populaires, hein, c'est-à-dire la prise en compte de la question culturelle comme une question fondamentale qui se pose pour désaliéner les classes populaires. La création du CNRS. Et le projet de loi Janzet qui abolissait la propriété littéraire et artistique et qui considérait que le droit d'auteur était une notion inaliénable, mais à séparer de la propriété littéraire et artistique en tant que propriété privée. Enfin, en conclusion, pour finir, que peut-on dire? Bien tout simplement que, je pense que vous l'aurez compris, le Front populaire, ça n'est pas la révolution, au sens où nous l'entendons. Simplement, c'est un programme keynésien avec ses limites, avec ses écueils. Mais la leçon que nous devons tirer de cette expérience assez formidable, assez inédite, c'est celle de la victoire possible pour des travailleurs organisés. Alors la victoire, pas complète, pas totale, hein, c'est pas la fin de l'histoire, c'est pas l'abolition des classes, mais c'est un premier pas. Je terminerai par ces mots qui sont véritablement... je dirais le résumé de ce à quoi les ouvriers ont échappé après 1936. Vous me permettrez de finir sur des mots de Simone Veil. Simone Veil, grande philosophe, a voulu se faire ouvrière en 1936. Elle a raconté par écrit son expérience en usine, c'est-à-dire une vie pénible, physiquement et moralement. Donc je tiens à dire quand même que cet extrait est pour moi la clé de l'engagement militant. Je cite Simone Veil, je lis. « Commander ne rend pas facile de se mettre à la place de ceux qui obéissent. » Rien ne paralyse plus la pensée que le sentiment d'infériorité nécessairement imposé par les atteintes quotidiennes de la pauvreté, de la subordination, de la dépendance. La première chose pour eux, c'est d'arriver à retrouver ou à conserver, selon le cas, le sentiment de leur dignité. Je ne sais que trop combien il est difficile, dans une pareille situation, de conserver ce sentiment, combien tout appui moral peut être précieux. J'espérais de tout mon cœur pouvoir, par ma collaboration à votre journal, apporter un petit peu d'un tel appui aux ouvriers de Rosières. Pour les malheureux, leur infériorité sociale est infiniment plus lourde à porter du fait qu'ils la trouvent présentée partout comme quelque chose qui va de soi. C'est ma première journée dans cette usine. Elle m'avait paru accueillante la veille. Après toute une journée passée à arpenter les rues, à présenter des certificats inutiles, enfin ce bureau d'embauche avait bien voulu de moi. Comment se défendre au premier instant d'un sentiment de reconnaissance? Me voici sur une machine, compter 50 pièces, les placer une à une sur la machine, d'un côté, pas de l'autre, manier à chaque fois un levier, ôter la pièce, émettre une autre, compter encore. Je ne vais pas assez vite, la fatigue se fait sentir, faut forcer, empêcher qu'un instant d'arrêt ne sépare un mouvement du mouvement suivant. Plus vite, encore plus vite. Allons bon, voilà une pièce que j'ai mise du mauvais côté. Qui sait si c'est la première? Il faut faire attention, cette pièce est bien placée. Celle-là aussi. Combien est-ce que j'en ai fait ces dix dernières minutes? Je ne vais pas assez vite, je force encore. Peu à peu, la monotonie de la tâche m'entraîne à rêver. Pendant quelques instants, je pense à bien des choses. Réveil brusque. Combien est-ce que j'en ai fait? Ça ne doit pas être assez, il ne faut pas rêver. Forcez encore. Voilà, ben c'était le premier numéro de la nouvelle édition de Pogastory. On espère que vous pourrez commenter et nous dire ce qui était bien, ce qui était moins bien, nous donner votre avis. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Salut !